rapport au temple de Dieu en tout lieu et en tout temps.
Mais il y a aussi certaines particularités de ce livre qui est vide. Et c'est ça qui nous intéresse ce matin, surtout. Quelles sont les différences entre ce temple, l'Église, et le temple qui était à Jérusalem, par exemple? On va voir trois différences. Ce sont des thèmes qui se trouvent tout au long du passage, mais qui s'annoncent tous dans la première phrase, c'est versets 4 et 5. Je vais le relire. Versets 4 et 5. « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu pourra accepter par Jésus-Christ. » D'abord, Jésus est la pierre angulaire, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. C'est au verset 6 où nous lisons que Jésus est la pierre angulaire de ce nouveau temple. Vous savez ce que c'est une pierre angulaire? C'est la pierre sans laquelle le reste du bâtiment tombe. Moi, je ne suis pas dans la construction, je ne connais pas très, très bien tout ce qui est construire des maisons et tout ça. Mais dans une maison, je sais bien qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont peut-être importants, mais qui ne sont pas forcément essentiels. Il y a beaucoup de pierres ou de briques ou de poutres, même qu'on peut enlever sans faire tomber le toit sur toi. J'étais surpris de voir mon beau-père, quand il a récemment acheté une nouvelle maison, il m'expliquait qu'il allait enlever certains murs afin d'élargir telle ou telle pièce. Et il n'avait aucune peur. Ça et ça et ça, je vais enlever, il m'a dit. Mais celui-là, il m'a dit à un certain moment, celui-là, non. Ça, je ne peux pas bouger. Sinon, le toit va tomber. Et tous les autres murs avec. Et pourtant, ce n'était pas forcément le mur qui me semblait le plus important. Mais il savait bien que c'était par ce mur-là que tout le reste se tenait. Dans le nouveau temple qui est l'Église, Jésus est la pierre qu'il ne faut pas enlever. Ça veut dire que tout le reste, c'est facultatif. Toi et moi, je suis désolé, mais nous ne sommes pas indispensables. Nous sommes aimés par Dieu et nous sommes importants à cause de ça. Mais nous ne sommes pas indispensables. Sans moi, cette Église continuerait si Jésus reste au centre. Sans toi, cette Église continuerait si Jésus reste au centre. Mais sans Jésus, tout tombe. Il est le seul dont on peut dire ça. Et c'est aussi vrai pour Paris que pour cette Église. Jésus est la pierre qu'il ne faut pas enlever. Et c'est marrant, n'est-ce pas, que c'est l'apôtre Pierre qui dit ça. L'apôtre Pierre. Quand Jésus l'avait appelé, cet apôtre, là dans sa barque, il y a tant d'années, son nom était Simon. Mais très vite, Jésus lui avait donné le nom Pierre, justement parce que c'était sur cette pierre qu'il avait bâti son église. Et pourtant, cette pierre qui a reçu ce nom de la part de Jésus lui-même, il savait qu'il n'était pas lui-même la pierre angulaire. Moi, si j'avais reçu un nom de Jésus, j'insisterais. Je suis la pierre. Il m'a appelé Pierre. Je suis la pierre. Mais c'est Pierre qui dit, non, je ne suis pas la pierre. C'est lui la pierre. Ça, c'est Jésus. C'est lui la pierre qu'il ne faut pas bouger. Sinon, le temple tombe. Concrètement, ça veut dire aussi que nous devons veiller sur notre enseignement, sur notre adoration, sur toutes nos activités, à ce que Jésus soit la raison pour tout. Notre connaissance biblique ne doit pas être une connaissance abstraite. Le but, c'est de connaître Jésus. Notre temps ensemble, ce n'est pas pour nous plaire ou pour plaire aux autres, c'est pour adorer Jésus et recevoir de lui. Nos activités ne sont pas pour avoir quelque chose à faire le vendredi soir ou le samedi après-midi. Nos activités sont pour servir Jésus. Et sans lui, toutes ces choses perdent leur sens. Et tôt ou tard, le temple tombe. Peut-être pas visiblement de l'extérieur. Malheureusement, je pense qu'il y a certains temples qui sont tombés depuis longtemps spirituellement. Et il continue. Et Jésus n'est plus au centre. À ce moment-là, ce n'est plus le temple de Dieu. Alors, si nous, les pierres, qui ne sont pas les pierres, la pierre angulaire, si nous nous rassemblons autour de la pierre angulaire, si nous nous approchons du Christ, comme le dit verset 4, alors nous allons trouver notre propre place. Nous avons une place. Nous allons trouver en nous rassemblant autour de la pierre angulaire. Et nous allons trouver que finalement, nous sommes assez solides, malgré certaines imperfections et des fissures même, car nous sommes rattachés à la pierre angulaire. C'est de là que vient notre force et notre solidité. Et d'ailleurs, en s'attachant à la pierre angulaire, nous allons trouver que nous sommes rattachés aussi les unes aux autres. C'est autour de lui que nous sommes unis. Vous voulez construire la relation la plus proche et la plus solide que vous pouvez avoir avec quelqu'un? Mettez Jésus au centre de cette relation. C'est vrai dans un couple, c'est vrai dans l'amitié et c'est vrai dans une église. On n'est jamais plus proche et plus soudé que lorsque Jésus nous soude. Nous avons parlé il y a 2 semaines de paradoxes dans la vie chrétienne et en voici un autre. 2 personnes ne sont jamais plus proches l'une à l'autre que lorsque elles ont Jésus entre elles. Vous mettez Jésus entre toi et la personne en face et vous êtes plus proche que jamais. Si Jésus n'est pas au centre de nos relations et de nos activités dans cette église, tôt ou tard, elle va s'écouler. Mais s'il est notre pierre angulaire, nous formerons ensemble un temple solide au Dieu très haut. Voilà pourquoi nous disons, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Sans Jésus, nous ne nous connaîtrions pas les uns les autres. Je ne vous connaîtrai pas sans Jésus. Nous venons de différentes cultures, nous travaillons dans différents domaines, nous avons différents arrière-plans et intérêts, mais quand nous nous approchons du Christ avec tous les croyants partout dans le monde, et tout au long de l'histoire, nous formons un seul cœur. Nous sommes un peuple. Et non pas juste un peuple. Regardez bien. Nous sommes le peuple. Le peuple de Dieu. C'est l'une des grandes différences entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance que Jésus a faite par son sang. Maintenant, le peuple de Dieu, ce n'est plus une nation, la nation d'Israël dans l'Ancien Testament, unie par une semence corruptible, comme Pierre l'appelle à la fin du chapitre 1. Maintenant, le peuple de Dieu, c'est une église, un temple construit de pierres venant de toute nation et de toute tribu. Alors, notons aussi que, alors, c'est Jésus qui bâtit ce temple. C'est le deuxième point. Si Moïse a supervisé la construction du tabernacle de Salomon et Salomon a supervisé la construction du temple, c'est Jésus lui-même qui construit le nouveau temple qui est l'Église. Car Pierre nous dit, laissez-vous édifier. Malheureusement, la traduction du Semeur obscurcit un peu ce fait. Mais c'est « laissez-vous édifier », non pas vraiment « édifiez-vous ». Il y a une différence. Et si vous avez un doute, il suffit de revenir au verset que j'ai déjà cité, où Jésus dit explicitement que c'est lui qui va bâtir son Église. C'est Jésus qui bâtit son Église. Comme c'est Jésus qui fait naître la foi de chaque individu, et c'est Jésus qui l'amène à la perfection, c'est Jésus qui bâtit ce temple, ce nouveau peuple. C'est Jésus qui fait de nous son temple. C'est facile d'imaginer en tant que chrétien que c'est nous qui baptisons l'Église. Mais en fait, c'est Jésus. Et si c'est lui, ça implique deux choses. D'abord, l'Église doit être construite selon ses spécifications et non pas les miennes, à ses spécifications. Si j'imagine que c'est moi qui bâtis l'Église ou moi qui la fais bâtir, je vais tout naturellement vouloir que l'Église réponde toujours à mes désirs et à mes besoins, qu'elle corresponde à ce que moi j'envisage. Et dans ce cas-là, je vais très vite adopter l'attitude d'un consommateur, n'est-ce pas? Quelqu'un qui achète quelque chose. Comme par exemple, quelqu'un qui fait construire sa propre maison. Alors, je suis désolé si certains ici ont eu une mauvaise expérience par rapport à ça. Je sais que ça peut être stressant de faire construire sa propre maison, mais je ne veux pas provoquer des prises d'angoisse en mettant ça comme illustration. Mais c'est une très bonne illustration de ce que nous faisons des fois avec l'Église. Parce qu'on me dit que c'est très compliqué de faire construire sa propre maison, parce qu'il y a tellement de détails à gérer. Mais certains le font justement parce qu'on peut tout contrôler, n'est-ce pas? La taille de chaque pièce, le style du câblage, la couleur de la peinture même. Et là, c'est complètement normal que tu contrôles tout parce que tu paies, n'est-ce pas? Tu paies et donc tu contrôles. Mais dans l'Église, qui est-ce qui paie? C'est pas toi. Ce n'est pas nous qui paie. Bien sûr, nous donnons nos offrandes. Mais si vous voyez les offrandes comme un moment de paiement, il faut qu'on en parle. Ce n'est pas l'idée. Parce que là, c'est vrai qu'on utilise cet argent pour avoir une salle, peut-être pour payer un pasteur. Mais ni la salle, ni le pasteur sont l'Église. Les gens sont l'Église. Le peuple est l'Église. Et pour que ce peuple existe, qui paie? Jésus, évidemment. C'est Jésus qui a payé avec son sang. Vous, au contraire, vous êtes un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé. Et cela, nous l'avons déjà vu au chapitre 1, c'était payé, racheté par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. L'Église avec un E majuscule, l'Église globale et chaque petite Église locale, nous appartenons tous à Jésus parce que c'est lui qui nous a rachetés et c'est lui qui nous édifie. Et pourtant, nous trouvons très facile d'adapter l'attitude d'un consommateur vis-à-vis de l'Église, des fois. Comme si c'était nous qui payions, n'est-ce pas? Et des fois, ça peut signifier qu'on devient vite à critiquer. Si le style de musique ou telle autre chose ne nous plaît pas. Comme si tout devrait être personnalisé pour moi, personnellement, spécialement. Et je n'ai pas l'impression que c'est ce qui se passe dans notre Église. Mais nous devons faire attention que ça ne devienne pas le cas. Mais il faut aussi faire attention parce que nous pouvons avoir une attitude de consommateur même en étant très positif. J'aime telle ou telle église parce que la musique est très bien faite. Les gens sont comme moi. Les messages sont très intéressants. Et c'est bien si on peut dire ça par rapport à notre église. Ce sont de bonnes choses. Mais nous ne devons pas oublier que Jésus ne bâtit pas l'Église que pour nous. Jésus ne bâtit pas l'Église que pour moi. comme si c'était ma maison personnelle. Il bâtit son église pour nous tous, y compris ceux qui sont toujours dehors, ceux qui ne sont jamais entrés dans une église. Jésus bâtit cette église pour eux aussi. Et peut-être que ces autres gens ont besoin de quelque chose que moi, dont moi je n'ai pas. Et je suis là autant pour assurer que les autres puissent trouver Dieu et recevoir de lui que pour le faire moi-même. C'est toute l'idée du temple. Si Jésus bâtit l'église par son esprit, il va le faire selon ses spécifications, pour le bien de tout le monde, selon sa volonté et pas forcément la mienne. Ce n'est pas toujours facile de se souvenir de ce fait, mais c'est essentiel. Et c'est la première implication du fait que c'est Jésus qui bâtit l'Église. La deuxième implication, c'est que ça veut dire que c'est sa responsabilité et non pas la mienne, ni la vôtre. C'est sa force qui va accomplir la tâche et non pas la nôtre. Ça devrait nous être un grand soulagement. Car des fois, il faut avouer qu'on peut être découragé, même dans l'Église, peut-être surtout dans l'Église, parce qu'elle nous est tellement chère, n'est-ce pas? Il n'y a rien de plus cher dans ma vie que l'Église. Et ça veut dire que quand les choses ne vont pas, c'est particulièrement dur. Ou si je trouve que les choses ne vont pas, quand un certain ministère dans lequel nous sommes impliqués, ou un événement, ou un projet, ou un service, quand il ne va pas, ou quand nous avons l'impression qu'il ne va pas selon nos spécifications, il faut absolument se souvenir du fait que ce n'est pas nous qui bâtissons cette église, c'est Jésus. Alors certes, nous avons une responsabilité. Jésus nous a sauvés et fait de nous un peuple justement pour que nous puissions le servir dans son temple. Donc il ne faut pas lâcher, ce n'est pas ça l'idée. Nous sommes appelés à annoncer l'évangile, à faire des disciples, à vivre d'une manière qui reflète la gloire de Dieu. Mais c'est à lui de s'occuper des résultats. Notre tâche, c'est de nous approcher de lui. Et puis c'est lui qui va nous utiliser. Et non pas l'inverse. C'est lui qui nous utilise, pas nous qui l'utilisons. C'est Jésus qui décide ce qui compte comme une réussite pour telle ou telle église. Et c'est lui qui va assurer cette réussite. C'est Jésus qui décidera si l'église de Bussy devrait devenir une grande église ou rester une petite église. Le monde a besoin des deux. C'est Jésus qui décide quand. Il nous a donné cette salle. Et c'est lui qui décide si nous y restons ou pas. C'est lui qui sait ce qui sera le mieux pour cette ville et pour nous tous. C'est lui qui va décider qui vient et qui part et pourquoi. Des fois, on peut se décourager si les gens partent pour une maison ou autre. Il faut avoir confiance que Jésus est en train de bâtir son église. Et pas juste cette église, son église. Et ça inclut nos églises sœurs, les églises, son église, chaque église qui a Jésus au centre, il est en train de construire ses églises parce que c'est son église. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver dans la vie d'un chrétien ou d'une église qu'on peut très facilement commencer à s'inquiéter, à être toujours craintif. Si on imagine que c'est à soi à contrôler les choses, on va devenir craintif, rempli de peur et d'inquiétude. Certains d'entre vous savent que nous, cette semaine, Sheila et moi et les filles, nous venons d'adopter un chien. Alors, pour la première fois dans notre vie. Et il a 3 ans. Et on l'a pris dans un refuge. Il était au refuge pendant quelques mois, mais apparemment, avant ça, il a eu une vie très, très difficile. Car il est très, très craintif. Il a peur de tout, d'absolument tout. Il a même peur des voitures garées. Quand on les passe, il essaie de fuir et de se cacher. Et tout ça, en tout cas, il était comme ça. Mais on essaie de le rassurer et de lui faire comprendre que les choses ont changé dans sa vie. Et l'une des choses qu'on nous a dit par rapport à tout ça, c'est qu'un chien, craintif a besoin de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui le contrôle, quelqu'un d'autre qui contrôle sa vie, qui a le contrôle de sa vie. On peut être tenté de laisser un chien comme ça faire n'importe quoi parce qu'on n'ose pas le reprendre à cause de sa peur, justement. Mais en fait, si on le laisse faire n'importe quoi, il va se rendre compte qu'en fait, il est le chef de meute. Il va devenir plus craintif parce qu'il sait qu'il n'est pas à l'auteur. Mais s'il voit que moi, je suis le chef et que moi, je l'aime, il va se calmer parce qu'il a confiance en moi. Parce que je suis quelqu'un de bien et quelqu'un de puissant, au moins à ses yeux, par rapport à lui. Alors, quand nous passons devant une voiture garée, maintenant, j'insiste qu'il s'arrête et je ne laisse pas continuer. Je me penche à côté de lui, je passe mon bras au-dessus de son dos et je mets ma main sur sa poitrine pour qu'il puisse ressentir que moi, j'ai le contrôle et que moi, je n'ai pas peur. Et puis, il se calme. C'est Jésus qui bâtit cette église. Et c'est Jésus qui bâtit ta vie. C'est lui qui a le contrôle. Il n'y a personne de mieux ni de plus puissant. Il n'a pas peur. Pour lui, Satan n'est pas plus redoutable qu'une voiture garée. Ce n'est pas à toi de vaincre l'ennemi. Jésus l'a déjà fait à la croix. Et ce n'est pas à toi non plus d'assurer que tel ou tel ministère se fasse bien dans l'Église. C'est à toi, c'est à moi d'être fidèle. Tout simplement. Et après, c'est Jésus qui bâtira l'Église. Si nous sommes fidèles, il le fait comme il veut, quand il veut. Alors, pour terminer, le dernier point à voir par rapport à ce temple revient à la question que j'ai posée au début. Quel type de temple sommes-nous? Quel type de temple est Jésus en train de construire? Quelle sorte de temple est l'Église? Dans l'Ancien Testament, on peut dire que le temple à Jérusalem était censé être un peu comme le château à Versailles. Et là, je ne parle pas au niveau architectural, mais spirituellement. Le temple était censé être un endroit lumineux et attirant. C'est pour ça que les psaumes parlent avec tant de joie d'aller à Jérusalem pour adorer l'Éternel. Parce que c'était un endroit de joie où on pouvait se rencontrer, on pouvait rencontrer l'Éternel. C'est là où on pouvait y aller pour rencontrer le roi de l'univers. Alors, à l'époque de Jésus, le temple est devenu plutôt comme le château à Vincennes, une forteresse spirituelle pour les Juifs contre le monde, pas pour les attirer, pour attirer le monde. Et c'est pour ça que c'est l'une des raisons que Jésus dit qu'il va le détruire. Et quand il le rebâtit, qu'est-ce qu'il crée? Quel est le nouveau temple que Jésus crée? Pas une forteresse, c'est sûr. Mais pas un palais non plus. Il bâtit un temple vivant. Et ça veut dire qu'à la différence de l'ancien temple, ce nouveau temple bouge et il se répand. Ce n'est plus le monde qui vient au temple, c'est le temple qui va au monde. À Versailles, la lumière restait dans le bâtiment, la nourriture restait dans le palais, même si toute la ville meurt de faim. Mais imaginons Si tous les gens de la cour de Louis XIV, par exemple, étaient sortis un soir de Versailles avec leurs bougies et leurs repas pour se répandre dans la ville, ça serait une grande fête des quartiers, n'est-ce pas? Un festival de lanternes. J'ai toujours une image, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est un festival de lanternes avec la lumière et la nourriture qui se répandent partout dans la ville. Voilà exactement le nouveau temple dont nous faisons partie. Nous avons reçu la vie de résurrection, non pas pour la garder pour nous-mêmes, mais pour la partager. Notre appel est d'amener la lumière et la nourriture avec nous partout dans la ville. Et lorsque nous nous quittons aujourd'hui, à la fin de ce culte, le temple de Dieu ne sera pas vide. Cette salle sera vide. Mais le temple va partir. Vous en rendez compte? Il va aller dans ce sens-là. Là, je pense, avec James et Nexida, et Yolaine et Isaac, et d'autres. Et dans ce sens-là, avec la gang. Et dans ce sens-là, vers Service et Chessie et Saint-Thibault là-bas, le temple va aller partout. Et tout au long de la semaine, là où tu es, sera le temple du Dieu très haut. Dans ta maison, à ton travail, avec tes amis et même tes ennemis. Tu amènes le temple du très haut avec toi. Et il va peut-être falloir du courage pour ça. Parce que c'est vrai que parfois le monde est hostile à la présence de Dieu. Et ce n'est pas toujours facile de faire preuve d'amour face à ceux qui nous blesseraient. Des fois, nous allons vouloir fuir. Nous allons vouloir abandonner. Comme mon chien Sam peut fuir les voitures garées. Mais celui qui est avec nous, celui qui est en nous, il n'a pas peur. Je ne sais pas quelle partie de la vie chrétienne tu trouves difficile en ce moment. Ce qui te décourage, qui te fait peur. Mais celui qui t'a appelé est fidèle. C'est lui qui bâtit son église. Et si tu as mis ta foi en lui, tu en fais partie. C'est-à-dire qu'il bâtit ta vie aussi. Mes enfants savent quelque chose que notre chien Sam n'a pas encore compris. Parce que lorsque Sam a peur, il essaie de courir. Il n'a pas le réflexe de s'approcher de moi. Pas encore. Et c'est pour ça que des fois, je dois tirer sa laisse pour qu'il s'arrête et que je puisse mettre mon bras autour de lui. Mes filles n'ont pas ce problème. Quand quelque chose leur fait peur, elles viennent directement à moi ou à Sheila. Quand elles sont fatiguées, elles nous cherchent. Quand elles ont faim, elles nous cherchent. Elles savent que nous sommes les parents, que nous avons le contrôle, que c'est à nous de bâtir notre vie de famille et que c'est à nous de leur donner tout ce qu'il faut pour sortir de la maison chaque jour et faire face au monde. Ton Père Céleste t'occupe de toi. C'est lui qui a le contrôle. C'est lui qui va te donner ce qu'il faut pour sortir de la maison demain. Nous sommes les enfants de Dieu. L'Esprit du Christ est en nous. Approchons-nous donc de lui cette semaine. Qu'il fasse de nous des pierres vivantes dans son temple, vivant, que le monde voit sa lumière. Approchons-nous de Christ ensemble pour que nous soyons soudés autour de notre pierre angulaire. C'est Jésus, notre Père. C'est Jésus qui va permettre que notre Père puisse nous entourer de son bras puissant cette année. Prions ensemble.